France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, face à l'islamisme, excès de zèle ou naïveté, et y a-t-il trop de commissions d'enquête parlementaires ? Nos débatteurs ce dimanche, Laetitia Stroche-Bonnard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, votre dernier ouvrage, La gratitude, récit politique d'une trajectoire inattendue, a été publié aux éditions de l'Observatoire. Magali Lafourcade, pardon, bonjour.
Bonjour.
Magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, vous venez de publier au Petit Matin « Démasculiniser la justice ». Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Directeur des éditions du CERF, vous avez publié chez Albin Michel, c'était l'an dernier, « Occident, ennemi mondial numéro 1 ». Et Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant en affaires européennes, enseignant à l'ECP Business School et au corps des mines. Dans la deuxième partie de l'émission, nous évoquerons la multiplication des commissions d'enquête parlementaires, des outils utiles à la démocratie, de mieux en mieux relayés, au risque d'être instrumentalisés à des fins partisanes. Nous en débattrons. Mais pour commencer, le rapport hyper médiatisé de la semaine, celui sur les frères musulmans et l'islamisme politique, présenté mercredi en Conseil de défense, il a donné lieu à de nombreuses joutes politiques, comme ici, entre Gabriel Attal et François Ruffin.
Ce rapport, je le dis, il est une forme de claque pour tous ceux qui défendent la République, ses principes et ses valeurs. Quand la République est défiée par des organisations qui, de manière coordonnée, comme c'est précisé dans le rapport qui a été remis au gouvernement aujourd'hui, imposent à des fillettes de 5-6 ans de se voiler pour défier les règles de la République, je considère qu'on doit agir et qu'on ne doit pas rester les bras ballants.
L'opportunisme de Gabriel Attal sur ces questions-là fait pour moi le jeu des islamistes. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le rapport. Le rapport est de dire, attention, il y a un sentiment d'islamophobie, même d'une islamophobie d'État, et que la religion musulmane, les croyants, les pratiquants ne sont pas traités à égalité, mais sont traités à part, avec des lois à part.
Alors, s'il s'agissait de créer les conditions d'un débat apaisé, l'opération est totalement ratée. La présentation mercredi en Conseil de défense d'un rapport donc sur les frères musulmans et l'islam politique en France s'est transformé en pugilat politique, à se demander si ce n'était pas le but recherché. Ce rapport, commandé il y a un an à deux hauts fonctionnaires, porté notamment par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, que dit-il ? Que l'organisation islamiste des frères musulmans et ses représentants en France ont un caractère clairement anti-républicain, qu'à ce titre, cette organisation constitue une menace pour la cohésion nationale, que sa façon d'agir relève de l'entrisme, c'est-à-dire en infiltrant des lieux de pouvoir afin d'en modifier les pratiques, que cet entrisme se développe par le bas à l'échelon municipal. Alors, sur le fond, pas de révélation fracassante, mais le rapport a le mérite de tenter de quantifier la menace. 139 lieux de culte seraient liés aux frères musulmans en France, soit 7% des lieux de culte musulmans répertoriés au niveau national, auxquels il faut ajouter 280 associations et une vingtaine d'établissements scolaires, quelques milliers d'élèves sur un total de 12 millions. Alors, un phénomène qui, statistiquement, apparaît donc comme assez marginal, ce que n'ont pas manqué de relever un certain nombre d'experts du sujet. Mais dans le journal L'Opinion, un préfet leur répond « Le CUG, dit-il, ce n'est pas le nombre, mais la force du message. » D'où l'ouverture d'un nouveau concours Lépine afin de répondre à l'emprise de cette officine islamiste. Concours remporté pour l'instant par l'ex-premier ministre Gabriel Attal qui préconise d'interdire le port du voile dans l'espace public aux mineurs de moins de 15 ans. À gauche, on dénonce une opération de communication et un opportunisme susceptible d'alimenter le rejet des musulmans. À l'Élysée, on promet d'agir sans faire preuve ni de naïveté ni d'amalgame. Une véritable ligne de crête. Jean-François Colosimo, ce rapport, est-ce que vous y avez d'abord appris des choses sur l'ampleur de la présence des frères musulmans et de ses représentants en France ?
On a des chiffrages qui sont sérieux, disons, c'est ça qui compte. Pour le reste, ce que sont les frères musulmans, la manière dont ils essaient effectivement de noyauter, par exemple, les banlieues, cela, il suffisait de lire Gilles Kepel il y a bientôt 25 ou 30 ans pour en prendre la mesure tout de même. Donc c'est plutôt, je dirais, la révélation, c'est plutôt que l'État, finalement, s'occupe d'une question cruciale, effectivement. Et moi, je n'aime pas du tout le fait qu'on oppose comme ça, finalement, le sentiment des non-musulmans et le sentiment des musulmans en France, n'est-ce pas ? J'entends par musulmans les gens qui pratiquent l'islam et non pas les gens qui, par exemple, portent un nom maghrébin, et, tout en étant français, qui sont assimilés à l'islam, qui n'est pas nécessairement leur foi. On parle vraiment du phénomène religieux. Bon, la vérité, c'est que nos compatriotes qui sont donc de religion musulmane, bien, ce sont les premiers visés, en fait, par les dix frères musulmans, n'est-ce pas ? Ce sont eux qui sont exposés au danger de cette volonté d'entrisme et de captation, alors qu'on le sait, la question de la création, du développement et de l'épanouissement d'un islam de France est une question essentielle pour la France, pour l'Europe et pour le reste du monde aussi, puisque la France, de ce point de vue-là, avec la laïcité, a toujours été un laboratoire de créativité pour les religions qui, dès lors qu'elles devaient entrer dans l'espace public, en quelque sorte désarmées, dès lors qu'elles refusaient de faire la loi, qu'elles laissaient la loi à l'État, ont développé véritablement des ressources extraordinaires, ce qui fait que le catholicisme français, le judaïsme français, le protestantisme français ont vraiment été, je dirais, des écoles d'inspiration un peu partout sur les quatre coins de la planète. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu qui est derrière, c'est qu'en dehors de la juste dénonciation d'un groupe militant qui effectivement profite et abuse de la démocratie pour poursuivre son projet qui est paratotalitaire, hein, qui est l'imposition d'une société programmée avec la charia, mais c'est pas la question, toute société programmée de cette sorte est paratotalitaire. Donc arrêter cela, c'est aussi se poser la question de savoir quel devenir à l'islam de France en France.
Mais Jean-François Colosimo, vous dites ce sont le
conjoint, et je note que dans le débat, c'est très très peu apparu, malheureusement, et que, par exemple, on n'a pas du tout consulté les musulmans de France contre des personnalités importantes, on les a guère consultés à l'occasion de ce débat. Je dirais que les musulmans, nos compatriotes musulmans, se sont retrouvés en quelque sorte pris en otage de deux côtés, n'est-ce pas ? Du côté de ceux qui, en fait, ne souhaitent pas voir cet épanouissement de l'islam en France, et de l'autre côté, par ceux qui veulent instrumentaliser, en fait, l'islam à des fins électorales.
Mais Jean-François Colosimo, vous dites que ce sont les musulmans qui sont les premiers concernés. Quand on entend ce que dit le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui, il dit que l'objectif est clair des frères musulmans, hein, qui ont donc statistiquement, en tout cas, une présence assez marginale en France. Alors évidemment, il y a d'autres groupes, d'ailleurs, hein, qui défendent un islamisme politique. Oui. Mais il dit l'objectif est clair, c'est faire basculer toute la société française dans la charia. Et c'est vrai que c'est beaucoup aussi ce qu'on a retenu. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez considérer qu'il exagère cette menace et que la question n'est pas là de savoir si ses frères, les fréristes ou leurs représentants en France peuvent faire basculer l'ensemble de la société et pas seulement les musulmans.
Alors, la vérité, c'est que le projet des frères musulmans, c'est bien celui-là. C'est de créer, partout où ils sont, une société fondée sur la charia. Ça c'est constitutif, n'est-ce pas ? C'est sur un mode quasiment trotskiste d'entrisme, c'est d'imposer petit à petit, en fait, la substitution à la loi civile. On substitue à la loi civile la loi religieuse, puisque ce qui caractérise tout de même l'islam tel que le conçoivent les frères musulmans, c'est d'être en fait une régulation totale de la société. Les frères musulmans ne parlent pas de la mystique soufie, n'est-ce pas ? Ils parlent de la manière dont on va organiser les relations entre les hommes, les femmes, de la manière dont on va châtier les coupables, enfin, etc., etc. Ah, d'ailleurs, en se référant à une charia complètement reconstruite au XIXe siècle. Bon. Donc, on a affaire à un phénomène moderne d'idéologisation du religieux avec un but de conquête. Alors, en attendant que la France bascule, ce qui semble assez douteux, au moins à court terme ou à moyen terme, certainement, ce qu'ils veulent, c'est obtenir des îlots séparés du reste du pays où leurs pratiques auraient force de loi contre la loi de la République. Et ça, en revanche, ça c'est certain. Alors, ça passe par exemple par le fait que, dans une cité, dans une ville donnée, on peut obtenir que, effectivement, les garçons et les filles n'aillent pas ensemble à la piscine. Donc c'est préserver ça. Leur volonté, c'est d'islamiser à leur manière d'abord les musulmans. C'est là où on a un problème politique énorme.
Vous êtes d'accord avec ça, Magali Lafourcade ?
Alors, je pense que ce qui est... Oui, je suis d'accord avec cette idée qu'il faut, protéger les musulmans qui pourraient être susceptibles d'adhérer à cette idéologie-là. Et pour ça, je trouve qu'on a eu un traitement politique et médiatique qui n'a pas du tout été sérieux. C'est-à-dire que moi, j'ai lu le rapport avec grand intérêt parce que je voulais voir les préconisations du rapport. Et le rapport dit, en page 62, pour ceux qui veulent s'y référer, qu'il faut lutter contre le sentiment de rejet qui irrigue les familles de confession musulmane, et qui, ce qui requiert l'envoi de signaux forts attestant de la considération à leur endroit et d'une prise en compte de leurs aspirations. Et il est conclu qu'il faudrait réaffirmer que la foi et la culture musulmane sont aussi respectables que les autres et que la République en garantit le libre exercice et la libre manifestation.
Et vous avez l'impression que le traitement politique et médiatique de ce rapport va à l'encontre justement de cet objectif ?
Parce qu'on a eu une surenchère de préconisations qui en fait vise la visibilité, enfin qui cible la visibilité dans l'espace public des manifestations de l'islam. Et là, on est dans quelque chose qui stigmatise, qui renvoie à un discours qui nourrit la haine. Et vraiment, sur une échelle politique très large, de Gabriel Attal jusqu'à Reconquête et au Rassemblement National, on a vraiment ce discours de surenchère qui est à rebours des préconisations du rapport. Moi, j'aurais aimé qu'on discute de la question de l'apprentissage de l'arabe dans les écoles de la République.
Qui figure dans le rapport, ces préconisations.
Pour ne pas laisser au pays d'origine le monopole de cet apprentissage avec les risques que ça comporte. Ça, c'est intéressant. Et ce que je trouve aussi très dommageable, c'est la séquence politique à laquelle on a assisté, parce que dans les cabinets ministériels, ça s'appelle des séquences politiques, c'est-à-dire qu'on fait d'abord du teasing avec un ministre, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, qui envoie au compte-gouttes des confessions, des mots qui jouent sur la peur, puisqu'on parle de confrérie, on parle de dissimulation, de taquilla, d'entrisme. Et ensuite, on a une divulgation d'un rapport où derrière, les solutions ne sont pas à la hauteur de ce que doivent être des responsables politiques, c'est-à-dire que à minima, ils auraient dû vérifier le cadre constitutionnel quand on préconise un certain nombre de choses. Et puis aussi lancer l'idée qu'il faut dissoudre des idéologies. Une idéologie, ça se combat sur le terrain de la République grâce à nos services publics, grâce à nos valeurs universalistes. Et c'est ça qui est vraiment en jeu. Il faut être très sérieux dans le traitement de ce sujet.
Il faut préciser d'ailleurs alors qu'Emmanuel Macron a prévu qu'il y ait un prochain conseil de défense pour mettre sur la table différentes préconisations, mais pour revenir juste un instant, Magali Lafourcade, sur celle faite par Gabriel Attal, notamment d'interdire le voile dans l'espace public aux mineurs, aux jeunes filles de moins de 15 ans. Lui se défend de toute stigmatisation, il explique au contraire qu'il s'agit aussi d'une mesure pour les défendre de cette forme d'emprise que pourrait avoir l'islamisme. Est-ce que ça, c'est un argument qui s'entend ?
Eh bien, il faut déjà vérifier que c'est compatible avec notre cadre juridique européen et constitutionnel, donc avant de faire des propositions comme ça dans la nature. Et puis surtout, il propose un délit pour contraindre les parents qui contraignent les enfants, donc un délit de contrainte par les parents pour porter le voile sur les fillettes. Il se trouve qu'on a eu la même chose avec le voile intégral, avec un délit pour ceux de l'entourage des femmes qui imposent de porter un voile intégral. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de condamnation sur ce terrain-là. Donc, il faut faire aussi des mesures qui sont praticables, mais qu'on peut mettre... J'ai aucune sympathie pour des parents qui forceraient leur fillette à porter le voile. En plus, c'est pour moi contraire à l'idée que je me fais du féminisme et aussi à une vision universaliste. Il faut pouvoir avoir du discernement quand on porte un vêtement qui a une connotation religieuse. Voilà, donc les fillettes, ça me semble être extrêmement préjudiciable. Cela dit, il faut quand même un peu de réflexion quand on est un responsable politique, quand on apporte une mesure de cette nature dans l'espace médiatique et politique.
Laetitia Strauss-Bonnard, ce rapport, est-ce que vous le trouvez intéressant et est-ce que vous trouvez que la façon dont il a été traité médiatiquement et politiquement est à la hauteur de son contenu ?
Alors oui, intéressant, mais comme cela a été dit, on n'y apprend pas énormément de choses, en tout cas sur ce que sont les frères musulmans, sur leur stratégie. Oui, il y a certains chiffres qui sont mis à jour, certaines données un peu plus précises. Quant à sa stratégie de communication, écoutez, c'est le cas de la plupart des rapports, et ça s'inscrit aussi dans une stratégie politique plus large, qui est celle du ministre de l'Intérieur. Écoutez, moi je trouve que c'est une très bonne chose de lutter contre l'islamisme, il le fait avec les moyens dont il dispose. Là où je suis d'accord avec vous, Magali Lafourcade, c'est que c'est vrai que les propositions étaient un petit peu mineures comparées à ce qui a pu être dit sur le rapport lui-même. On aurait attendu une liste de propositions très étayées, très argumentées, très solides et en effet juridiquement tout à fait compatible avec la loi, ou si ça ne l'est pas, justement avec des préconisations pour changer la loi.
Peut-être parce que la loi est suffisante aujourd'hui. Il y a eu la loi contre le séparatisme en 2021 qui prévoyait déjà un certain nombre de choses.
Oui, tout à fait. Je voulais revenir sur la question de la lutte contre une idéologie. Vous avez dit, Magali Lafourcade, qu'on ne tue pas une idéologie. Ce qu'on peut faire, c'est se battre contre elle. Alors, j'apporterai une petite nuance. Dans les réactions à ce rapport, les réactions médiatiques, les réactions de certains chercheurs, j'ai quand même entendu, à mon avis, bien trop souvent, la réflexion selon laquelle on ne pouvait rien faire contre une idéologie, on ne pouvait pas l'interdire, on ne pouvait pas user de la loi pour combattre une idéologie qui est quand même d'essence totalitaire. Je trouve que c'est quand même un peu défaitiste. J'ai tendance à penser aussi que on accepte un certain nombre de compromis qui s'avéreront être des compromissions. Et on sait que l'extrême gauche, malheureusement, a pris ce chemin aujourd'hui. Alors oui, on ne peut pas interdire une idéologie, mais tout de même, on peut faire beaucoup de choses. On peut évidemment interdire un certain nombre de manifestations qui clairement vont à l'encontre de nos principes, et j'insiste sur nos principes plutôt que valeurs, principes républicains, comme vous l'avez dit Jean-François Colosimo.
Manifestations, vous voulez dire des manifs ou...
Non, des manifestations, des
expressions publiques.
Des expressions.
D'accord.
Ça peut même être certains propos, si ces propos vont dans le sens d'une incitation à la haine ou mettent, en danger l'ordre public. Mais toutefois, je voulais quand même apporter une autre nuance à ce que je viens de dire. On a entendu un certain nombre de commentateurs parler du respect des valeurs de la République. Et je fais référence notamment à un rapport qui a été publié par la Fondapol, rédigé par un préfet, le préfet Alexandre Brugère, qui est sorti exactement au même moment que ce rapport sur les frères musulmans, et qui prend à peu près la même ligne. Mais j'ai été quand même surprise de lire dans ce rapport que être français, c'est... respecter les valeurs de la République, c'est même aimer la République, la France. Je suis un peu surprise tout de même, parce que je pense qu'on peut être français en étant, par exemple, royaliste. Et je trouve étrange aujourd'hui qu'on demande aux gens, finalement, dans leur fort intérieur, d'aimer la République. Je pense qu'il faut, c'est d'abord respecter la loi, et avant de chercher à comprendre ce qu'il y a dans l'esprit des individus, il faut d'abord s'intéresser aux manifestations. Et je crois que si on prend le chemin de l'étude de l'intériorité humaine et des intentions, on fait fausse route et on s'empêche d'être sévère, intraitable sur les manifestations qui posent problème. Mais j'insiste sur cette distinction, parce que déjà on ne parle que de valeurs et plus de principes, et que, encore une fois, dans un pays libre, dans une démocratie libérale, on a le droit de ne pas aimer la République. En revanche, on a l'obligation de respecter les lois.
Yves Bertoncini, sur ce rapport, donc sur les frères musulmans et l'islamisme politique, j'évoquais alors ce qu'en dit l'Élysée, c'est-à-dire il faut éviter, il faut faire preuve ni de naïveté, ni d'amalgame, dit-on du côté de l'Élysée. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en France, on penche plus du côté de la naïveté par rapport à la menace que fait peser l'islamisme politique, ou on est plutôt tenté, et c'est peut-être ce qui est ressorti ces derniers jours dans le débat politique, par l'amalgame et par considérer que islamisme et islam, ce serait plus ou moins la même chose?
Oui, je pense qu'hélas, on est plutôt dans l'amalgame. J'ai été un lecteur des banlieues de l'islam qui a évoqué l'ami Colosimo. Il y a longtemps, je ne dirais pas que ce rapport... Gilles Kepel, qui documentait d'ailleurs à l'époque une réalité sociologique essentiellement. Évidemment, il faut lutter contre tout ce qui, dans cette réalité sociologique, entraverait et ne respecterait pas nos lois et les principes de la République. Nous sommes ici en République, les Français, et ceux qui vivent sur notre territoire, y compris non-Français, doivent doivent respecter tout cela. Pour en revenir à ce que vous dites sur l'Élysée, oui, bah, ce qui me frappe, si vous voulez, si on veut être charitable, il y a eu une séquence. Bon, l'islamisme politique doit être combattu. Il y a eu une séquence, il y a une loi antiterroriste, hein, d'abord. Quand Emmanuel Macron a été élu, je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut évidemment pourfendre la lutte contre le terrorisme islamiste et le terrorisme sous toutes ses formes. Ensuite, il y a eu cette loi sur le séparatisme en 2021.
Loi confortant le respect des principes de la République.
Voilà. Bon, très bien. Et ce qui m'a surpris dans ce rapport, c'est qu'il se focalise sur donc l'entrisme islamiste, mais des frères musulmans. Je me suis demandé pourquoi pas les salafistes. Pourquoi pas les wahhabistes ? Pourquoi ceux-là ? Bon, alors je me suis dit, c'est peut-être que la menace s'est accrue. Or, quand on regarde les quelques chiffres qui sont dans ce rapport, et que l'on les compare d'ailleurs à un précédent rapport du ministère de l'Intérieur, on a l'impression que la vague est en reflux, au contraire, est en reflux. Il y a moins de lieux de culte, par exemple, contrôlés par les frères musulmans qu'il y a 10 ou 15 ans.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des raisons diplomatiques alors à ce choix-là ?
Alors oui, sur le wahhabisme, je crois, hein, qui est quand même financé par l'Arabie Saoudite certainement, des raisons diplomatiques, mais ça ne nous empêche pas de cibler les frères musulmans. Dans le passé récent, on a ciblé le salafisme, mais à juste titre. Hein, mais je dis, quelle est l'idée qu'il y a quand Bruno Retailleau parle de vague et parle même de submersion. Je suis désolé, quand on lit ce rapport, cette vague, il faut la prendre en considération, elle est plutôt en reflux. Dans certains quartiers, elle est peut-être plus haute, il faut évidemment s'en occuper, mais enfin, elle nous arrive à la cheville, et elle ne mettra pas la France à genoux. Et donc, quand on entend des responsables politiques qui devraient faire leur travail, s'il y a des frères musulmans qui sont en train de corrompre la jeunesse, qui sont en train, dans des écoles, je pense au lycée Averroès, de ne pas faire les choses correctement. D'ailleurs, il me semble que ça a fait l'objet d'un traitement, bah, qui traite les sujets. Là, il y a quand même une mise en scène, pardon, dans un conseil de défense de surcroît. Laetitia, vous dites un rapport, ça fuite. Non, un rapport classifié avant un conseil de défense. Non, souvent, non, mais vous dites souvent les rapports, c'est comme ça, la séquence politique. Non, bah oui, je suis d'accord. Non, mais attendez, qu'on soit bien au clair. Je suis d'accord avec vous, mais dans un cas comme ça, ça ne devrait pas fuiter. C'est comme quelque chose de convoquer un conseil de défense, comme si la patrie était en danger. Et là, d'un coup, bah, nous avons, parce que c'est assez sourcé, un ministre de l'Intérieur qui se lance dans sa campagne. Et je termine pour dire que, enfin, qui se lance dans sa campagne présidentielle, puisque il a réussi son premier objectif partisan, qui était de conquérir les Républicains. Alors, un dernier pour la route, Gabriel Attal et l'interdiction du port de voile dans l'espace public. Parce que là, on a complètement changé d'endroit, là. Puisque lutter contre l'entrisme des frères musulmans qui, parce que justement, ils seraient plus faibles, maintenant utilisent des voies subreptices, sachant que la taqiyya, la dissimulation, est effectivement professée par ses confréries. Bon, ça renvoie directement, puisque là, on est dans le bizarre, dans l'obscur, au fantasme que peuvent projeter des politiciens français. Mais voilà, luttons. Mais alors, quand on arrive dans l'espace public, on va vraiment faire adopter une loi qui va envoyer nos gendarmes et nos policiers verbaliser des petites filles jusqu'à 15 ans parce qu'elles auront choisi, sans doute sous la contrainte, certes, de porter un voile. Alors moi, je ne suis pas très satisfait quand je vois une jeune fille voilée, mais enfin, est-ce qu'on va vraiment, je pensais hier en écoutant la Palme d'Or à Cannes, est-ce qu'on va vraiment avoir une police des vêtements en France ? Je cite Jafar Panahi, et que personne n'ose nous dire ce qu'il faut porter comme vêtement. On est quand même en République, et là-dessus, Gabriel Attal s'est totalement fourvoyé à mes yeux.
Allez, réaction pas trop longue, si vous voulez bien, les uns et les autres, pour qu'on ait le temps de refaire peut-être un petit tour de table. Jean-François
Alors,
Colosimo.
Je vais essayer d'aller très vite. Un, le salafisme ne menace pas la République, parce que le salafisme, c'est le séparatisme, et que là, on parle d'entrisme. Donc, ce sont deux dossiers différents. Deuxièmement, il n'y a pas de wahhabisme en France, puisque ce qu'encourage l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, c'est précisément le salafisme. Et c'est pour ça que ces deux pays étaient unis pour démettre Mossi, le premier ministre égyptien, frère musulman, lesquels frères musulmans sont soutenus par le Qatar et la Turquie. Donc ça, il faut vraiment comprendre ça, parce que le dossier islam en France, malheureusement, il relève pas du bureau central des cultes, qui s'appelle, en fait, c'est le nom gentil pour la police des cultes, qui est une institution qui remonte à la monarchie, mais est partagée avec le Quai d'Orsay, malheureusement. C'est un des problèmes essentiels. Le deuxième point, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui fut jadis laïciste et qui est aujourd'hui communautariste, mais comme il a une mémoire de laïciste, n'est-ce pas, se souvient un tout petit peu de ce qu'est la laïcité, qui ne remonte pas à 1789, qui est déjà pratiquée sous la monarchie, je me suis attaché à le montrer par le passé, n'est-ce pas, et qui correspond au fait qu'en France, les religions ne font pas la loi. Donc, lorsque les protestants, la France était le pays disant, lorsque les protestants font des places fortes, c'est-à-dire des villes à eux, n'est-ce pas, et se mettent en liaison avec l'étranger, c'est là où il y a la révocation de l'édit de Nantes. Lorsqu'il y a l'émancipation des Juifs, on cite toujours Clermont-Tonnerre, désormais nous ne traiterons pas les Juifs comme un peuple, mais chacun d'entre eux comme un citoyen, on ne cite jamais la fin de sa formule, et ceux qui ne sont pas d'accord n'auront qu'à partir. N'est-ce pas? Parce que c'est ça la République aussi. Quant aux catholiques, on sait très bien, autour de 1905, il y a eu des morts, n'est-ce pas, lors des manifestations. Donc, bien sûr que l'État exerce une contrainte jusque dans les vêtements. C'est ça la France. Jusque dans les vêtements, c'est ça l'histoire de France. On peut changer d'histoire, on peut s'inventer autrement. Mais la vérité, c'est que quand on regarde l'histoire du rapport de l'État à la religion en France, principalement catholique, ensuite protestante, juive, etc., lorsque Napoléon veut prévenir les cas d'antisémitisme qui existent à ce moment-là en Alsace, il crée le Sanhédrin, il réunit les notables juifs, il leur pose des questions. Évidemment, les réponses ne sont pas vraiment libres. Est-ce que votre frère juif est plus votre frère que votre frère français? Est-ce que vous pensez que les lois de la synagogue dépassent les lois du directoire à cette époque-là? Donc on voit bien qu'il y a toujours eu en France, pour l'État, afin d'assurer la paix civile, une mission de contrainte sur ce que les religions ont de forcément débordant par rapport à la paix civile.
La contrainte, elle doit aller jusqu'où, Magali Fourcade?
Ben, c'est tout l'enjeu pour moi, c'est que c'est pas forcément dans la contrainte qu'il faut agir. Je voudrais rebondir sur la question de comment on lutte contre une idéologie qui porte une contre-société, donc la contre-société islamique. Je crois qu'il faut vraiment remettre de la République. C'est pas anodin que l'antrisme qui est décrit dans ce rapport prospère sur toutes les sphères de la vie, donc le caritatif, l'humanitaire, la formation religieuse, le mariage, la famille, la vie professionnelle, l'insertion, etc. Ce qu'il faut, c'est se dire qu'il faut remettre des services publics, traiter la question du champ social. Il faut aussi lutter contre les discriminations dont font l'objet les musulmans. Je rappelle quand même que les discriminations, donc il y a 23 critères dans notre pays, les condamnations pénales, c'est entre 0 et 5 par an, condamnations pénales. Tous critères confondus. Et puis, je crois aussi qu'il faut rappeler, ça, les études de la CNCDH le montrent à longueur d'année depuis plus de 35 ans.
CNCDH, je rappelle, la Commission nationale des droits de l'homme.
Qui est le rapporteur national sur le racisme. En fait, les racistes ne sont pas sectaires. Hein. Quand ils n'aiment pas les musulmans, en général, ils n'aiment pas non plus les noirs, ils n'aiment pas les arabes, ils n'aiment pas les juifs, ils n'aiment pas les femmes émancipées, ils n'aiment pas les minorités sexuelles. Donc, il faut aussi envoyer un signal très fort pour ne pas nourrir les amalgames. Rappeler que l'islam en France, il y a une grande hétérogénéité des pratiques. Jean-François l'a rappelé, il y a qu'une partie des personnes de culture musulmane qui sont pratiquantes, c'est 20% à peu près. Donc il faut aussi lutter vraiment activement contre la discrimination, contre la ghettoisation, contre tous les racismes.
Mais est-ce que les islamistes ne jouent pas aussi de cette victimisation pour dénoncer toute critique de ce qu'ils font?
C'est ce que dit le rapport, et justement il faut éviter qu'il y ait une adhésion de musulmans qui ne sont pas du tout dans cette mouvance-là à cette idéologie victimaire. Et je crois, pour finir, qu'il manque quand même quelque chose dans ce rapport. C'est le côté prédicateur 2.0. C'est un peu abordé, mais on voit que tout ne se passe pas dans les mosquées. Il y a des prédicateurs, des influenceurs financés par des pays avec qui on est plutôt amis, qui peuvent susciter un danger vraiment dans les pratiques qui peuvent en résulter.
Laetitia Strange-Bonnard.
Très souvent, je défends le juste milieu. Eh bien, ici, c'est la même chose. Je défends la contrainte quand elle est nécessaire, tout à fait. Mais je défends aussi la persuasion et l'affection. Et je pense que ça n'est pas du tout incompatible. Mais finalement, l'enjeu général qui nous concerne aujourd'hui, c'est la question de savoir comment faire pour que ce qui nous unit soit plus important que ce qui nous sépare. Et le problème de notre société, c'est que les choses qui nous séparent tendent à prendre beaucoup de place. Des identités multiples se développent. C'est une très bonne chose. Les gens sont libre d'adopter, disons, un certain nombre de pratiques, de choix, d'activités, tant qu'elles ne gênent pas les autres et qu'elles ne contreviennent pas à l'ordre public. Mais tout de même, aujourd'hui, on a vu se développer en France, on voit se développer en France un certain nombre d'îlots identitaires où, eh bien, ce qui sépare les individus semble plus important que ce qui doit nous unir tous ensemble dans la nation. Et même si les frères musulmans, comme vous l'avez rappelé, sont aujourd'hui en légère décroissance, tout de même, le fait même qu'ils représentent une volonté alors de séparatisme et d'entrisme, c'est un petit peu les deux finalement, est très grave. Et même si ça représente peu de personnes, parce qu'on sait très bien que ce sont les minorités agissantes qui sont beaucoup plus dangereuses pour une société que sa majorité tolérante. Et c'est là aussi que je voulais revenir sur une des faiblesses consubstantielles aux démocraties libérales. Les démocraties libérales mettent en avant la tolérance. Et c'est une très bonne chose. Mais elles oublient le message de Karl Popper, grand libéral également, qui est qu'on ne peut pas être tolérant avec les intolérants. Et je crois que ce message-là a été complètement oublié de nos derniers gouvernements, de ces dernières décennies, de certains décideurs, de certains commentateurs. On ne peut pas être tolérant avec des gens qui estiment que notre façon de vivre ne peut pas exister. Donc c'est une leçon aussi pour les libéraux, ce qui se passe en ce moment.
Et pour conclure sur ce sujet, Yves Bertoncini, vous aurez tous eu l'occasion de vous exprimer à deux reprises sur cette question.
Non, mais je crois qu'en effet, il faut lutter contre l'entrisme des frères musulmans de manière opérationnelle, que quand on met en scène un tel rapport dans une telle séquence, c'est qu'on a d'autres visées, qui sont des visées politiques, pour ne pas dire politiciennes. Je crois qu'il faut, cela étant dit, faire bien la différence entre cet entrisme associatif, multiforme, qui, pour être d'ampleur très limitée, doit être surveillé, et même, je dirais, rejeté, avec, d'autre part, l'islamisme dans les services publics. Et là, ça a déjà fait l'objet de lois, et dans les écoles, notamment, le port du voile dans les écoles, le port de l'abaya, notamment, ça c'est non, ce sont des services publics. Et l'espace public tout court. Et pardon, Jean-François Colosimo, je vais essayer de lire votre ouvrage passionnant, mais d'abord, moi, je ne considère pas que Napoléon soit un modèle républicain. Nous sommes aujourd'hui en république. Liberté, égalité, fraternité. Et donc, la police du vêtement n'a pas sa place. Et il suffit de dans notre pays. Je conçois bien que ça puisse susciter de l'anxiété culturelle, pour ne pas dire du racisme pur et dur, hein, de voir des voiles dans nos rues. Simplement, ça fait partie, c'est une partie de l'identité de la France, telle que l'a forgée, ses conquêtes coloniales, ses diasporas, etc., etc. Il faut vivre avec. Et ça, c'est bien différent de l'entrisme des frères.
Guillaume Nogaré, conseiller de Philippe le Bel, à De Gaulle, en passant par Clémenceau, Napoléon et Louis XIV, ça a toujours été la même politique, il faut l'apprendre.
Bon, c'est en tout cas un sujet de débat et de discussion absolument passionnant. On passe à notre deuxième sujet, si vous voulez bien. Il est 11h32 sur France Culture. Les commissions d'enquête parlementaires, elles sont de plus en plus nombreuses. Sont-elles trop nombreuses?
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Il y en a beaucoup, il y en a peut-être un peu trop. En fait, chaque groupe politique a le droit de faire une commission d'enquête par an. Mais en plus, j'ai des commissions d'enquête qui sont votées dans l'hémicycle. Mmh. Et en plus, j'ai des commissions permanentes qui se transforment en commission d'enquête. Donc tout cela, vous voyez, ça commence à faire beaucoup. En même temps, les commissions d'enquête, à nouveau, on y est très attaché. C'est le pouvoir de contrôle du Parlement et c'est les droits de l'opposition.
Ça commence à faire beaucoup. La présidente de l'Assemblée nationale lance un avertissement amical aux députés. N'abusez pas des commissions d'enquête parlementaires. Si celles-ci ont leur utilité, leur multiplication peut poser problème. Les propos de Yaël Braun-Pivet ont été prononcés alors que venait de s'achever la commission d'enquête sur le contrôle des violences à l'école, plus particulièrement autour de l'affaire Betarame. François Bayrou a été auditionné. Un de ses contradicteurs, le rapporteur Paul Vannier, député LFI, a été jugé par certains trop agressif, surtout soucieux de vouloir briller devant les caméras. Car la commission d'enquête parlementaire est un petit spectacle du théâtre politique retransmis en direct à la télévision. Pour des élus qui ont du mal à exister en séance plénière, dans une assemblée bloquée, la commission, c'est une autre façon de rendre visible son mandat. D'autant que ça marche, côté Audimat, jusqu'à 1 million de téléspectateurs en plein après-midi pour l'examen de l'affaire Benalla. C'est cette affaire d'ailleurs, du nom de l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron, qui semble avoir marqué un tournant, une volonté des parlementaires d'user davantage de leur pouvoir de contrôle dans une logique transpartisane, sur la concentration des médias, sur les fraudes dans l'industrie de l'eau en bouteille, sur l'affaire Cahuzac, les commissions d'enquête éclairent sur les dysfonctionnements sans se substituer, du moins en théorie, à la justice. À ceci près donc qu'elles sont de plus en plus nombreuses. De une par an en moyenne dans les années 90, on est passé à 10 chaque année depuis 2022. Une inflation qui s'explique par le morcellement politique, chaque groupe ayant le droit d'en créer une par an. Plus il y a de groupes, 11 aujourd'hui, plus il y a de commissions. Alors au risque d'en abuser, les patrons d'entreprises commencent, en tout cas certains, à se fatiguer de devoir répondre régulièrement aux questions des parlementaires. Sauf à faire, bien sûr, comme le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, convoqué à plusieurs reprises, mais qui a refusé de s'y rendre à ses risques et périls. Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Colosimo, Magali Lafourcade, Yves Bertoncini et Laetitia Strauch-Bonnard. Laetitia, les commissions d'enquête parlementaire, est-ce que ça vous paraît d'abord être un outil intéressant et utile à la démocratie? Et question suivante, est-ce qu'il y en a peut-être un peu trop aujourd'hui?
Oui, bien sûr qu'en théorie, c'est un outil important, même indispensable. À votre seconde question, je répondrai par l'affirmative également. Je pense qu'il y en a trop. Mais surtout, je pense qu'elles sont organisées, orchestrées d'une façon qui n'est pas forcément la plus pertinente. Je m'explique d'abord, elles sont bien trop souvent filmées, à mon avis. Il faudrait qu'elles soient plus souvent, au contraire, réalisé à huis clos. Parce que quand on est filmé, quand on sait qu'on est filmé, eh bien, on se met en scène, on pense à son image, on pense à son image sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez terrible. Et ça, c'est un fait. Aujourd'hui, les parlementaires sont plus attentifs aux petites capsules qu'ils vont pouvoir créer sur les réseaux sociaux qu'à, disons, à l'impact d'un grand discours, d'une grande argumentation à l'Assemblée. Donc ça, c'est pour moi un effet complètement délétère de ces commissions.
En même temps, on peut vous rétorquer que c'est un exercice de transparence démocratique, que c'est bien de voir justement comment la politique s'exerce.
La politique ne peut pas toujours être transparente. Quand la transparence se fait au détriment du sérieux et de la sincérité, je pense qu'elle est problématique. Ensuite, on l'a tous vu, ces commissions ressemblent souvent à des tribunaux. Il y a aussi une mise en scène de l'accusation. Ces commissions sont utilisées de façon politique, on le sait aussi, mais ça n'est pas nouveau. Autre chose, et je pense que c'est, à mon avis, le problème le plus important, c'est que elles s'intéressent moins au contrôle du gouvernement qu'à, disons, des réflexions plus générales sur des questions de société. Et je trouve que les objets, parfois, des commissions dépassent un petit peu leur objet. Donc, à devenir trop large...
Vous pensez à une commission en particulier?
Écoutez, celle, par exemple, sur les élections, me semble à très, très large. Je ne vois pas très bien en quoi ça concerne le contrôle du gouvernement. Et d'ailleurs, quand on voit les personnes qui sont invitées, on a l'impression que potentiellement tout le monde pourrait être invité à partir du moment où, par exemple, on finance, on subventionne un parti politique. Mais alors, il y a quand même un effet positif et inattendu de ces commissions, c'est qu'elles permettent souvent d'exposer la médiocrité de certains parlementaires. Parce que, ils ne savent pas bien introduire leur sujet. Ils ne s'expriment pas très bien, ils ne savent pas poser des questions à la fois courtoises et précises. Donc, si vous voulez, ça vous permet, en effet, alors là, la transparence fonctionne très bien parce que vous vous dites, alors là, celui-là, si j'ai l'occasion de voter pour lui, je ne le ferai jamais.
Il n'aurait donc rien à faire dans cette émission, hein, l'esprit public, à qui ne réunit que des gens qui savent bien s'exprimer. Vous avez dit, Laetitia Strauch-Bonnard, ces commissions, parfois, elles se transforment en tribunal. Vous qui êtes magistrate, Magali Lafourcade, est-ce que vous partagez cette analyse? Et si on peut avoir l'impression, effectivement, quand on les regarde, que c'est un peu un tribunal, d'un côté, donc, des juges, que sont les députés ou les sénateurs, et puis, dans les accusés, ceux qui sont appelés à être auditionnés, est-ce que ça témoigne pas aussi peut-être d'une faiblesse de la justice elle-même, qui est obligée d'attendre que le politique s'empare de sujets qui devraient être dévolus aux tribunaux, justement ?
Alors non, en fait, ça se passe pas comme ça, parce qu'en fait, on peut pas programmer une commission d'enquête parlementaire s'il y a des faits qui sont poursuivis judiciairement. Donc il y a un gros verrou. Donc ce sont des exercices qui sont parallèles. Là où on peut avoir l'impression d'être dans un prétoire ou dans une enceinte judiciaire, c'est qu'il émerge dans ces moments-là des grands moments de vérité. Et c'est ça qui fascine en fait la population et qui fait que les Français adorent regarder sur les chaînes d'info et que les chaînes d'info retransmettent ces auditions, c'est que on a des moments d'espace de vérité qui, au cours d'une audition qui peut durer 3, 4, 5 heures, apparaissent.
Donc, Lady Saint-Charbonnard nous dit, c'est pas vraiment de la vérité, c'est plutôt de la comédie, puisqu'il y a des caméras, donc on joue un rôle.
Ouais, alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'abord, j'ai l'expérience de la commission d'enquête parlementaire, puisque j'ai été moi-même auditionnée dans une commission d'enquête il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai vu comment ça se passait. Voilà. Alors c'est vrai que le fait d'être filmé crée une pression supplémentaire, mais sinon il n'y a pas de publicité. C'est-à-dire que la publicité des débats en audience judiciaire, c'est que le public peut entrer dans la salle d'audience. L'Assemblée nationale, vous savez, il faut être convoqué, il faut avoir laissé votre date de naissance, votre lieu de naissance. C'est très très verrouillé, donc on ne peut pas aller assister. Ce qui est important...
Mais si on peut le regarder à la télévision, ça...
Oui, mais donc ce que Laetitia Srojbonard dit, c'est qu'il faudrait pas que ce soit filmé, donc on pourrait pas regarder
pas toutes,
à la télé.
Pas toutes.
Il y a des cas où on fait à huis clos. Hein. Ça a été fait par la commission d'enquête pilotée par Sandrine Rousseau sur les violences sexistes et sexuelles dans la culture et le cinéma. Moi, je crois que c'est un outil extrêmement intéressant, qu'aujourd'hui, on fait un faux procès à ces commissions d'enquête, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, qui est une résultante en fait mécanique de la révision constitutionnelle de 2008. À l'époque, il n'y avait que 4 groupes. Aujourd'hui, il y en a 11, donc c'est mécanique. Il y a aussi un effet de politisation, comme il n'y a pas de travail législatif d'envergure en ce moment à cause de la fragmentation du Parlement. Il y a un investissement dans ces commissions d'enquête. Je crois aussi qu'elles font l'objet d'une surenchère de médiatisation qui a un intérêt aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut avoir des mises en scène de certains députés qui veulent avoir de la notoriété comme ça, mais c'est aussi le fait que, pour pouvoir avoir une suite au rapport qui est produit par cette commission d'enquête, tout ne relève pas du législatif. Donc il va falloir que le gouvernement se saisisse des conclusions. Et si vous médiatisez, ça a plus de chances d'aboutir à quelque chose de concret. Or, les responsables politiques, ils rentrent en politique pour faire des choses, normalement. Et donc, je crois que cette médiatisation, c'est aussi parce qu'elle rencontre un intérêt du public. Je trouve que le citoyen, il a besoin de savoir les conflits d'intérêts dans les cabinets de conseil, les conflits d'intérêts sur les eaux embouteillées, sur le scandale de Betarame. On ne va pas dire que ce qu'on apprend avec cette commission d'enquête sur les violences sexuelles à l'école n'a pas d'intérêt pour le grand public. Donc c'est un exercice qui, n'oublions pas, est transpartisan. C'est un espace transpartisan puisque la composition est proportionnelle à celle de l'Assemblée et que le vote du rapport final est voté par le groupe de la commission d'enquête. Ce qui fait que souvent les résultats sont extrêmement intéressant.
C'est vrai que la dimension transpartisane est rarement évoquée quand on parle des commissions d'enquête parlementaires. Yves Bertoncini, c'est quelque chose d'important. Alors, par exemple, sur la question des violences à l'école, alors on sait beaucoup, quand je dis on, là aussi, c'est dans les restitutions qui ont été faites, mais beaucoup se sont focalisés sur la méthode, la façon d'agir du rapporteur de cette commission, Paul Vannier, député LFI, mais qui a travaillé de concert avec une députée Renaissance, Virginie Spilbou. Ouais. On voit que ça donne quand même... je me suis trompé.
Violette Spilbou.
Violette, excusez-moi, oui, Violette Spilbou. Ça donne quand même de la force à ces commissions, cette dimension transpartisane.
Oui, absolument, d'autant qu'il y a tous les garde-fous qu'a rappelé Magali Lafourcade. Je vais m'inscrire dans sa lignée en défendant effectivement ces commissions d'enquête parlementaire, et sans oublier qu'en effet, le rapport final, qui va être un rapport opérationnel avec des préconisations, ne peut être adopté que parce qu'il y a une majorité des membres qui l'endossent. Donc ça réduit le risque d'excès qui, en revanche, et ça je rejoins Laetitia Strauss-Bonnard, peuvent être des excès médiatiques au moment où là il y a un face-à-face avec les auditionnés et puis en effet Paul Vannier ou d'autres qui veulent avoir leur quart d'heure de gloire. Mais je crois, moi, que ce n'est pas si négatif, puisque maintenant tout le monde peut se faire l'opinion qu'il souhaite sur Paul Vannier, qui n'était pas très connu jusqu'ici, et ça aussi c'est un progrès. Et d'ailleurs, j'ajoute, sur François Bayrou également, parce que
c'est ce que j'allais vous dire, parce que ce qu'il a dit n'est pas non plus totalement, comment dire, neutre et enfin il a eu des propos alors notamment sur une ancienne enseignante de Betarame. Enfin,
voilà le ton qu'il a utilisé, la tactique qui a été la sienne. D'abord, il devait rendre des comptes. Il faut dire les choses comme ça parce qu'il avait été très fluctuant dans ses déclarations. Donc, il était normal qu'il apporte des clarifications. Je ne suis pas sûr que la tactique et le ton qu'il a adopté l'ait beaucoup grandi aux yeux de l'opinion publique. Mais enfin, ça, on verra bien pour la suite. Mais ce que je voulais ajouter simplement, c'est que bien sûr, il ne faut pas réduire ces commissions d'enquête à l'écume médiatique, parce qu'il y a l'écume médiatique d'un côté et le travail parlementaire de fond de l'autre. Il y a eu un avant et un après Outreau du point de vue de l'action publique. Il y a eu un avant après Benalla. J'espère qu'il y aura eu un avant et après cette commission sur les violences en milieu scolaire, parce que ce qu'on apprend est quand même accablant. Ça dure depuis des décennies, bien au-delà de Pau et des environs de Pau. Et donc, il y a une utilité sur les eaux aussi en bouteille. Enfin, quand même, là, il semblerait qu'il y ait quand même eu des dysfonctionnements. Et je fais écho à ce qu'a dit Laetitia Strauss-Bonnard sur les questions de société. Mais si, ça peut aussi porter sur les questions de société. Les violences dans les milieux du cinéma et le milieu culturel, ça a été très utile. À nouveau, une commission transpartisane, effectivement, pour mettre à jour alors ce qui se passe d'abord, et puis la façon dont l'État, les pouvoirs publics, le législateur éventuellement, le pouvoir réglementaire de l'autre, peuvent éventuellement mettre bon ordre dans tout ça. Je voudrais dire une dernière chose quand même sur cette multiplication qui vient d'être évoquée. Et, bon, évidemment, il y a une conjoncture partisane qui est très particulière, mais je crois que tout ça a démarré au moment de l'affaire Benalla, que ça renvoie aussi à quelque chose de plus structurel. Ce sont aussi, dans la violence qu'a évoquée Laetitia Strauss-Bonnard, symbolique, il faut, moi je crois, intégrer le moment cathartique. Voilà. C'est, vous savez, l'affaire Benalla, c'est le fameux « qu'ils viennent me chercher ». On est quand même dans un système...
Ça, c'était Emmanuel Macron qui disait
voilà,
ça.
Voilà, qu'ils viennent le chercher, le responsable, c'est moi. Alors, deux brèves remarques. On est quand même dans un système de parlementarisme rationalisé en France, où le Parlement n'a pas beaucoup voix au chapitre. Je le dis ça avec un regard franco-européen. Et donc, évidemment, en plus, comme là, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus de dynamisme, il n'y a plus de majorité, on se rabat d'autant plus sur la capacité, les activités de contrôle. Mais il y a autre chose. On est quand même dans une monarchie républicaine dont le titulaire est irresponsable institutionnellement. Parce que quand Emmanuel Macron a dit qu'ils viennent le chercher, ah ben on fait comment pour aller le chercher, le président de la République? Et j'ajoute dans la dernière période sur l'affaire des eaux de bouteille que Alexis Kohler, qui était quand même l'alter ego, qui était quand même extrêmement plénipotentiaire à l'Élysée, a prétendu ne pas se présenter en ajoutant que le président de la République est irresponsable. Mais ça ne peut plus durer ça. On ne peut plus être dans une république qui est conduit par quelqu'un qui n'est pas chargé de déterminer et de conduire la politique de la nation, sauf qu'il le fait, alors que c'est le Premier ministre qui doit le faire. Et le Premier ministre, lui, va devant les commissions parlementaires d'enquête, mais aussi devant le Parlement. Ça ne peut plus durer. Et donc, c'est aussi parce que c'est une anomalie démocratique qu'il y a ces moments cathartiques. On essaye effectivement d'aller le chercher, le titulaire du pouvoir présidentiel. On a essayé au moment de Benalla. Ça risque un peu de dégénérer au moment de Nestlé, d'autant plus qu'Alexis Kohler a cru bon de se soustraire à ses obligations.
Voilà, Nestlé, hein, qui est la multinationale qui est particulièrement visée par cette commission d'enquête parlementaire sur les industriels des eaux en bouteille pour avoir fait des opérations, on va dire, de filtrage de ces eaux qui n'étaient pas autorisées et de l'avoir fait avec une forme de complicité au sommet de l'État, ce qu'ont relevé les rapporteurs de la commission sénatoriale. Jean-François Colosimo, sur l'utilité de ces commissions, sur leur nombre plus important. Pourtant, on l'a dit, avec cet effet mécanique, plus il y a de groupes parlementaires, plus il y a de possibilités d'avoir des commissions d'enquête.
Non, mais sur le fond, qu'il y ait des commissions d'enquête par les représentants du peuple, enfin, je veux dire, qui va contester ce principe, n'est-ce pas? Maintenant, on assiste quand même à un véritable problème qui est celui de l'exemplarité de ce qu'on appelait jadis la Chambre des députés, qui s'appelle aujourd'hui l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Et là, du point de vue de l'exemplarité, effectivement, on est face à une surmultiplication d'initiatives qui correspondent malheureusement non pas à, je dirais, un aiguillonnement de l'époque, mais à une conformation à l'époque. J'y viens. Moi, je trouve que le parlementarisme a mis la France tellement dedans. Troisième République, 1940, Quatrième République, une guerre d'Indochine, demain, poursuivie de manière insensée, une guerre d'Algérie insensée pour sauver le colonialisme, d'ailleurs au nom d'une certaine gauche, n'est-ce pas ? Tout ça a fait que la Ve République restaure en fait l'histoire de France dans son cours, réconcilie la monarchie et la République, puisqu'on a tout de même un président de la République qui non seulement est chef de l'État, chef de la diplomatie, mais aussi chef des armées, et que c'est lui qui appuie sur le bouton nucléaire, ce qui explique son statut spécifique, à moins de vouloir renoncer à cette arme nucléaire que tous les pays d'Europe, aujourd'hui, nous envient et aimeraient partager. Donc, ça c'est la situation. Face à ça, on a quoi ? On a une détérioration du débat public qui est évidente. Je veux dire qu'il n'y a qu'à voir la manière d'ailleurs dont l'Assemblée elle-même a pu être transformée parfois en espèce de champ de bataille insensé avec des invectives, des coups échangés, enfin, etc. Et c'est dans ce climat-là que d'un coup, effectivement, dans une société où la judiciarisation et la médiatisation jouent à plein, que d'un coup cette multiplication interroge, effectivement, et là je suis d'accord avec un peu tout ce qui a été dit, mais différemment, elle interroge parce que on s'est dit à quoi correspond-elle véritablement cette multiplication ? Est-ce que c'est une appétence parlementariste, en quelque sorte, pour imposer une nouvelle donne du pouvoir qui ne serait pas conforme à la Constitution, laquelle d'ailleurs j'ai très abîmée par le quinquennat, n'est-ce pas ? Dans un moment de faiblesse institutionnelle qui est clair après la dissolution, hein. Ou alors, est-ce que c'est un gain démocratique ? Ben, je dirais, ça dépend des sujets, quoi. C'est ça la vérité, n'est-ce pas ?
Et en même temps, il y a très rarement des invectives pendant ces commissions d'enquête. Non, quand même, il y a un vrai sérieux.
Les invectives où la pression, elle est plutôt parfois sur ceux qui se présentent devant ces commissions, n'est-ce pas ? Et qui peuvent avoir l'impression de pas être devant une commission démocratique, mais de un ersatz d'inquisition. Ça arrive aussi. C'est indiscutable. Donc, la vérité, c'est quel est le sujet ? Bon. Le problème, c'est que la majorité des Français ont pensé que la commission, par exemple, qui s'est réunie récemment, était là pour juger des vérités ou des mensonges de François Bayrou, alors que le problème, comme l'a dit, n'est-ce pas, c'est en fait une situation pathétique de l'efficacité des inspections scolaires, qui fait que les enfants ne sont pas préservés que des situations d'abus durent de manière inconsidérée, n'est-ce pas ? Mais il n'empêche que, je pense que dans l'imaginaire collectif, qui est très teinté de la société du spectacle, on voit la passe d'armes entre Vanier et Bayrou. Mais c'est pas le sujet. Malgré tout, c'est le sujet qui reste. C'est là où on a un problème, peut-être pas pour les éminents spécialistes, juristes, philosophes, etc. Mais je pense que pour le public, c'est ce qui reste. C'est a-t-il menti ou n'a-t-il pas menti ? Et d'un coup, là, ça devient un tribunal, et qui plus est, une espèce de tribunal auto-institué où il n'y a pas de règles, où on ne sait pas de quoi on parle, sur le fond, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça que je pense. Maintenant, je pense que la République, c'est plus que la démocratie.
Magali Lafourcade, ça ouvre presque un autre sujet de débat. Magali Lafourcade, vous nous avez dit tout à l'heure que, au titre de votre fonction de secrétaire général de la CNCDH, vous avez été auditionné par une commission d'enquête parlementaire. On peut savoir laquelle et à quoi elle a servi, cette commission d'enquête?
C'était au titre de mes anciennes fonctions de juge d'instruction. C'était la commission d'enquête qui avait été menée sous la présidence d'Isabelle Santiago sur les manquements dans les politiques de protection de l'enfance. Elle a été, cette commission d'enquête, unanimement saluée pour le sérieux de son travail. Le rapport, je crois qu'il faisait 150 pages, extrêmement intéressant, avec une dimension législative, mais surtout pour que se saisissent l'État, le pouvoir réglementaire, et il y a déjà eu des ministres qui ont dit qu'ils souhaitaient s'en emparer. Et ensuite, il y a la dimension des associations qui font un travail en la matière, qui aussi se sont emparées du sujet. Donc ça a visibilisé quelque chose qui était dramatique, hein, avec énormément de sérieux, et le fait d'être assermenté est intéressant, le fait d'être filmé est intéressant, et je crois que il faut pas du tout confondre ça avec un exercice judiciaire où dans l'exercice judiciaire vous avez le droit de mentir, de vous taire et bien sûr vous avez normalement accès aux dossiers, aux pièces, etc. Sauf que là, dans une commission d'enquête parlementaire, vous avez l'obligation de déférer à Après, vous n'êtes pas obligé de vous auto-incriminer, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions.
Pardonnez, qu'est-ce que ça veut dire, l'obligation de déférer?
Et ça veut dire que vous êtes obligé de vous rendre à la convocation.
Et c'est... Sauf que certains ne s'y sont pas rendus. Hein. J'évoquais tout à l'heure Pierre-Édouard Sterrin.
Exactement.
Homme d'affaires. Donc, alors, sur cette fameuse commission qu'évoquait tout à l'heure Laetitia Strauss-Bonnaert, sur l'organisation des élections, c'est vrai que c'est une thématique assez large. Lui, il a été convoqué trois fois. Trois fois, il a refusé de s'y rendre. Il risque d'ailleurs alors une amende, je crois, c'est 7 500 euros, deux ans d'emprisonnement.
Qui est à la clé, une peine d'amende. Je crois que je rejoins vraiment Yves Bertoncini sur ce point. Je crois qu'il ne faut pas laisser prospérer ces accusations globales sur cette mécanique de la commission d'enquête et surtout ne laisser prospérer deux choses. Les personnes qui refusent de s'y rendre. Donc il y a l'exemple d'Alexis Kohler et l'exemple de Pierre-Édouard Sterrin. Et les personnes qui font du parjure, c'est-à-dire qui font des fausses déclarations. Ça, il faut absolument restaurer cette spécificité par rapport à d'autres enceintes et surtout par rapport au modèle judiciaire de la commission d'enquête. C'est-à-dire, vous devez y aller et vous devez dire la vérité. C'est extrêmement important et c'est un exercice démocratique qui renvoie quand même à la Déclaration des droits de l'homme dans son article 15.
Jean-François Colosimo.
C'est pas la même chose. C'est tout. C'est pas le même cas. Mais c'est vraiment pas le même cas. Sterrin n'a rien à opposer au fait d'être, lorsqu'on lui demande de venir s'exprimer, il n'a rien à opposer si ce n'est son refus personnel.
Mais ça crée des précédents.
Kohler, lui, a un raisonnement. Après, on peut contester son raisonnement, mais il parle à partir de l'Élysée, n'est-ce pas ? Depuis l'Élysée, et ça change beaucoup, à moins qu'on change de constitution, ça change beaucoup.
Laetitia Strauss-Bonnaert et ensuite Yves Bertoncini.
Je voulais juste revenir sur deux mots qui ont été prononcés, alors qui mériteraient un examen bien plus complet, mais je vais quand même tenter de dire quelques mots. La vérité. Alors, la vérité politique est tout de même un concept difficile. Je ne sais pas si ces commissions sont le lieu où la vérité est capable d'être, disons, mise au jour, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. Je prends l'exemple de la commission dans laquelle le Premier ministre a été interrogé. Je l'ai écouté en entier. Et je n'ai pas eu l'impression, après cette commission, d'en savoir davantage. Bien au contraire, j'ai ressenti une forme de désarroi. Et d'ailleurs, contrairement à ce que vous disiez précédemment, j'ai plutôt eu de l'empathie pour François Bayrou, que j'avais l'impression d'être un petit peu acculé. Quel que soit le fond de l'affaire, je n'ai rien à dire sur le fond de l'affaire, je ne connais pas le dossier, donc ça n'est pas à moi de le juger. Mais voilà, moi je me méfie de cette idée de vérité politique, ou en tout cas, il faut la prendre avec des pincettes, et pour la faire advenir, à mon avis, il faudrait être beaucoup plus prudent. Par ailleurs, vous avez parlé de catharsis. Oui, la catharsis, c'est une bonne chose, mais attention à ce que la catharsis ne devienne pas la sélection de boucs émissaires.
Yves Bertoncini.
Oui, mais je voulais dire, moi aussi j'ai été auditionné par une commission d'enquête parlementaire au Sénat sur l'espace Schengen, je me souviens. C'était filmé au sens où les gens sur Internet pouvaient regarder, alors ça n'a pas défrayé la chronique. C'était à l'époque où il y avait à la fois une menace terroriste islamiste et des afflux migratoires massifs. C'est une commission qui a fait son travail, qui a rendu son rapport, mais c'était le Sénat, et je veux venir là-dessus, dans une époque où le Sénat n'était pas aligné avec la majorité, et donc ça a eu un impact limité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça a beaucoup plus d'impact? C'est parce que effectivement nous avons une fragmentation partisane, ça a été dit, bon, une dissolution qui a donné lieu à un paysage encore plus fragmenté, et c'est ça qui fait que ça marche un peu mieux qu'avant, parce que souvenons-nous l'affaire Benalla, il y a une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale qui était contrôlée par le pouvoir en place. Est-ce que ça allait vraiment aller aussi loin que celle qui a été présidée au Sénat par Philippe Bas et qui a été beaucoup plus, tout en étant respectueuse, incisive? Eh bien, tant mieux qu'il y ait une espèce de pluralisme partisan qui se soit introduit dans tout ça, même si effectivement, comme il y a 11 groupes aujourd'hui, ça fait un peu beaucoup de commissions parlementaires. Et c'est ça qu'il faudrait, si on veut traiter les causes profondes, c'est ça qu'il faudrait restaurer. On ne va pas se lancer dans un débat constitutionnel, mais à constitution constante, un peu plus de proportionnel aux législatives et des groupes justement un peu plus divers pour faire vivre le débat pluraliste, que tout ne soit pas piloté par l'Élysée et par un homme ou deux, comme ça a été le cas ces dernières années. Ça serait plutôt un progrès démocratique en termes d'abord de légitimité et je le crois aussi en termes d'intelligence collective et d'efficacité. Et je veux juste dire un dernier mot. Bien sûr que le président de la République, et c'est un atout dans notre pays, a un domaine réservé qui a été autorisé à constitution constante par le général de Gaulle et que c'est très utile pour l'affirmation de la France du point de vue diplomatique et militaire. Mais qu'il s'y tienne. Le général de Gaulle n'était pas Premier ministre. le général de Gaulle n'admettait pas les choses. Il vous reste 15 secondes.
C'est la faute de Catherine qui nous a été montrée comme une avancée démocratique, elle aussi, n'est-ce pas? Donc la démocratie, parfois, peut mettre en péril les institutions quand elle est mal comprise. Simplement, colère a été justifiée par les juges. C'est un point essentiel. Et deuxièmement, le Sénat fait un travail que l'Assemblée ne sait pas faire, parce que tous les rapports du Sénat sont intéressants, parce qu'ils représentent un véritable travail, une véritable consultation d'experts, sans volonté trop manipulatoire.
Les sénatrices et les sénateurs qui nous écoutent vous remercient, Jean-François Colosimo, ainsi qu'Yves Bertoncini, Magali Lafourcade et Laetitia Stroche-Bonnard. Merci à tous les quatre. Merci à Anne-Claire Bazin qui a préparé cette émission comme chaque semaine, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée. À la prise de son aujourd'hui, il y avait Vincent Ronet.